France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Correspondance pour l'Allemagne et la Suède. L'ensemble correspondance de Sébastien Dossé va visiter de nouvelles terres musicales sur son nouveau disque qui vient de paraître. Bonjour Sébastien Dossé.
Bonjour.
On vous connaît comme l'ensemble et le musicien qui explore la musique française du XVIIe siècle. C'était un peu la base. Est-ce que c'est une incursion ou c'est un virage qui ouvre une nouvelle voie?
Mais comme en soi, on ne peut pas trop prédire l'avenir. Je dirais que pour l'instant, c'est une incursion. Et puis ensuite, on va voir.
Comment ça s'est passé, cette incursion-là? C'est un disque, j'ai regardé ce disque qui vient de partir chez Harmonia Mundi, qui a été enregistré l'été dernier. C'était pas prévu?
Alors, c'était prévu parce qu'au départ, c'était une commande du Festival de Cracovie, où on devait créer ce programme. Et qui avait toute une thématique sur la musique allemande du XVIIe. Donc on était convenu de ce répertoire-là que je trouve vraiment à la fois fascinant. Je crois que c'est une des grandes œuvres de l'histoire de la musique qui est peut-être pas encore assez connue. Et puis c'est une œuvre que moi je fréquente depuis très longtemps parce que j'ai beaucoup étudié et puis surtout écouté quand j'étais adolescent. Donc voilà, on devait faire ça en mars. Voilà, ça fait partie du grand lot qu'a emporté la faucheuse Covid. Et puis cet été, on s'était dit que c'était il y en avait une possibilité pour l'enregistrer. D'abord avec le Festival d'Utrecht où on devait jouer ça pour le concert inaugural en ligne. Bon, finalement, une semaine avant, tout est à nouveau tombé à l'eau. Donc ça a été très rocambolesque, mais comme une sorte de conjonction de planètes, on a réussi en une semaine à tout réorganiser à l'abbaye aux Dames de Saintes, qui est en plus un lieu auquel on est super attaché, et pour refaire cette captation pour le coup pour un disque et en un temps record.
Quand vous étiez adolescent, Buxtehude, Chute, vous écoutiez quelles versions, quels ensembles?
René Jacobs, surtout. Et puis c'est vrai que quand on est adolescent, on n'a pas le même rapport aux disques que quand on est adulte. On les use beaucoup, c'est-à-dire qu'on les réécoute un milliard de fois. Donc c'est une œuvre dans laquelle j'ai l'impression d'avoir toujours baigné. Et voilà, j'ai une forme de familiarité, même si encore une fois, comme vous dites, c'est pas la musique française et c'est pas le répertoire sur lequel on est le plus identifié aujourd'hui.
Quand on a des enregistrements comme ça qui ont gravé son disque dur, comment, quand on le travaille avec son ensemble, on s'en affranchit ensuite? Est-ce que c'est une petite musique qui reste parfois?
Je pense qu'il y a, c'est comme une sorte de sous-couche. C'est quelque chose qui est à la fois qu'on connaît, sur laquelle on a des sensations, mais en définitive, quand on se lance sur un projet, par exemple comme ces mêmes Rai Esu Nostri, quelque part on repart toujours de zéro, dans le sens où par exemple moi j'ai refait toute l'édition, donc j'ai relu chaque partie, quelque part on remet l'œuvre sur le plan de travail et on s'affranchit probablement assez vite de ce qu'on a dans l'oreille.
Membra Jesu Nostri, on va en parler dans un instant. Voici comment ça commence, c'est le début de ce premier disque, Buxtehude, l'ensemble correspondance dirigé par Sébastien Dossé.
Thank you.
Sauvagerie. Non, là c'est...
Et ben voilà, le micro s'est ouvert. On se demandait qui était alors. C'est Mathieu Boutineau.
C'est Mathieu Boutineau, exactement.
Il y a des moments où c'est vous qui êtes à l'orgue de ce début des Membra Jesu Nostri de Buxtehude, Ad Pedes. C'est le début de ce double disque qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. Sébastien Dossé, Membra Jesu Nostri, petite explication. Question de ce latin, on est dans la passion du Christ, c'est l'époque, hein, on vient de fêter Pâques pour les chrétiens.
Oui, alors c'est un texte qui est d'origine médiévale, qui est comme une sorte de paraphrase mystique, d'évocation mystique des plaies du Christ sur la croix. Donc c'est un texte qui est pas narratif, c'est vraiment un texte contemplatif et qui je pense aussi a inspiré vraiment toute cette mystique au XVIIe siècle en Allemagne et qui a été aussi une grande source d'inspiration pour Buxtehude.
Avec les différentes parties du corps, enfin quelque chose de très charnel.
Ouais, de très sensuel. Et chaque cantate, parce que c'est un cycle de 7 cantates, évoque une des blessures du Christ. Donc les pieds, les mains, le flanc, etc.
Cette musique qu'on vient d'entendre de Buxtehude, qui est une musique finalement qu'on joue et qu'on écoute pas tant que ça, qui est beaucoup moins jouée que d'autres musiques sacrées allemandes de cette époque ou d'une époque qui va suivre. Sébastien Dossé, vous avez fait, vous l'avez dit, une recherche d'édition. Quelle recherche exactement? Comment vous avez travaillé, étudié?
C'est vrai qu'on n'a pas, dans le parcours de l'ensemble jusqu'à maintenant et ces 10 dernières années, on a relativement peu fréquenté les grandes œuvres du répertoire, les œuvres les plus célèbres. Je crois que celle-là, honnêtement, de Buxtehude est une des plus célèbres, et puis de la période d'avant Bach. Alors certainement moins connue que Bach, mais je crois que l'intensité est vraiment la même. Alors simplement pour cette musique-là, et qui a une histoire un petit peu particulière, je trouve que c'était important de même si l'œuvre a été beaucoup enregistrée, de repartir de zéro quand même pour le travail, dans le sens où l'histoire de cette œuvre, c'est probablement une commande de la cour de Suède à Buxtehude, qui était en poste à Lübeck, donc au nord de l'Allemagne. Et à la cour de Suède officiait son ami Düben, qui était aussi maître de chapelle. Et les deux hommes étaient très liés et se vouaient vraiment une amitié profonde et sincère. Et cette œuvre, quand elle est arrivée à la cour de Suède, donc commandée à Buxtehude, Düben s'en est emparé et a établi chaque matériel, chaque partition pour toute l'équipe qu'il avait en charge à la cour de Suède. Et c'était assez passionnant de voir les différences entre ce qu'avait envoyé Buxtehude et ce qu'en a fait Düben, c'est-à-dire pour la création, pour la première exécution, avec beaucoup de petites variantes, avec des parties d'alto ajoutées, avec des petites instrumentations de continuo particulières. Donc c'était aussi une manière de se plonger dans cette œuvre à la fois très fréquentée, très connue, et aussi éditée par ailleurs, mais en repartant de zéro.
Et donc vous, Sébastien Dossé, vous préférez repartir de zéro, c'est forcément mieux que
je
ne
sais pas si c'est mieux. En tout cas, comme l'édition, vous savez, l'édition, c'est déjà une part d'interprétation. Donc, se dire que on part d'une partition à laquelle on fait totalement confiance. En réalité, on fait confiance, je ne sais pas, à Monsieur Bernreiter, à Monsieur Bidule, ou à la personne qui aura fait l'édition peut-être 50, 100 ans avant, qui aura fait des choix, qui aura considéré certaines sources et pas d'autres. Donc, quelque part, en faisant l'édition soi-même, on est assuré déjà de faire des choix d'interprétation qui sont cohérents. De A à Z.
Ces Membra Jesu Nostri de Buxtehude sont écrits, c'est raconté dans le livret, en tablature, ça veut dire quoi ?
C'est un système de notation qui ressemble un peu à des hiéroglyphes quand on ne sait pas le lire, mais que les luthistes, les organistes fréquentent pour cette musique du XVIIe.
Buxtehude et puis Schütz également, qu'on va écouter dans quelques instants. Comment vous avez constitué ce double album ? Il y a quand même ce fil des derniers jours du Christ, de la Passion.
Oui, ça me semblait une œuvre intéressante à mettre en regard avec les 7 cantates de Buxtehude, dans le sens où chez Schütz aussi on a cette mystique du chiffre 7 avec ces 7 dernières paroles du Christ en croix, et pourtant un format tout à fait différent, parce que la construction est radicalement différente. Donc je trouve que c'était deux visions de cette mystique allemande du XVIIe autour du chiffre 7 et de la passion du Christ qui me semblait intéressant de mettre en miroir.
On parle vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, d'une certaine austérité dans cette musique. Est-ce que vous avez vraiment ce sentiment ou pas? Ou est-ce que c'est un cliché, une image un peu...
Moi, j'ai pas du tout le sentiment d'une austérité. C'est sûr qu'on n'est pas sur une grande démonstration théâtrale comme les oratorios d'un siècle plus tard. Mais je trouve qu'il y a pas une théâtralité, mais une forme de rhétorique, de puissance du discours. Il y a une forme de grande sensualité aussi dans le déroulement des lignes vocales. Il y a une profondeur dans l'écriture chorale. Il y a aussi cette recherche... Alors, on pourrait dire qu'il rapproche Buxtehude un peu de Charpentier aussi, mais c'est ce plaisir infini de superposer des voix, d'obtenir des harmonies dans lesquelles on se plonge totalement avec des dissonances complètement folles. Je crois que c'est une musique qui est vraiment, enfin, moi, qui est plus synonyme de plaisir que d'austérité, clairement.
Et voici Schütz et le début de cette dernière parole du Christ en croix. C'est l'introduction de cette dernière parole du Christ en croix, je le dis en français, d'Heinrich Schütz, sur ce disque Septem Verba et Membra Jesu Nostri, l'ensemble correspondance dirigé par Sébastien Dossé. Ça paraît chez Harmonia Mundi avec en pochette de ce disque une grenade ouverte, hein, c'est ça?
Le fruit, hein, le précisons fruit, quand même.
oui, le fruit de la grenade ouverte, une photographie contemporaine, donc pour illustrer cette passion du Christ mise en musique en Allemagne et en Suède. On en parlera tout à l'heure au XVIIe siècle. J'ai une question peut-être un peu intime, Sébastien Dossé, mais je me souviens, par exemple, Gustave Léonard disait que quand il dirigeait les passions de Bach, il demandait qu'on n'applaudisse pas, il disait qu'on ne peut pas... cette musique sacrée allemande, on ne peut pas forcément la comprendre entièrement quand on n'a pas la foi. Vous sortez ce disque au moment de Pâques. Est-ce que c'est une question, la question du sacré, de la foi qui vous interroge quand vous dirigez cette musique?
Bah oui, je pense que ça interroge tout le monde quelque part. Après, c'est vraiment des démarches très personnelles. Je dirais que collectivement, ce qui nous interroge, en tout cas, c'est la question de la profondeur. De qu'est-ce qu'on fait passer quand on fait cette musique-là. Et je crois que cette question, on se la pose nous comme interprète, mais quelque part, je pense que les compositeurs de cette époque-là se la posaient aussi. Qu'est-ce qu'on fait passer quand on écrit sur des textes sacrés? Alors, en l'occurrence, à l'époque, pour des contextes liturgiques, mais qu'est-ce qu'on fait passer de différent d'une cantate profane ou d'un texte plus pastoral, etc. Et je pense que sur tous les compositeurs qu'on a fréquentés jusqu'à maintenant, que ce soit Moulinier, Charpentier, en France, mais aussi ailleurs en Angleterre, je crois qu'il y a toujours une forme de supplément de densité très fort qu'apportent les compositeurs quand ils sont confrontés à ces textes-là. Donc aujourd'hui, je pense que en tant qu'interprète, qui reprenons ces partitions à notre compte, je pense qu'on on a tous cette sensation-là, même sans s'en parler, sans l'analyser, voilà, et indépendamment de la foi des uns et des autres.
Disque enregistré à Saintes, vous nous l'avez dit en août. Vous avez été notre dernier invité avant le confinement, il y a un an, je m'en souviens, Sébastien Dossi, puis on vous a eu plusieurs fois régulièrement dans cette émission pour parler de cette situation, pour parler de la crise. Vous avez été parmi les artistes invités il y a quasiment un an maintenant à l'Élysée par Emmanuel Macron. Vous avez pris la parole régulièrement pour parler des ensembles indépendants. Comment va aujourd'hui l'ensemble correspondant, Sébastien ?
Bah, je crois qu'aujourd'hui, on est très objectivement, on est épuisé. On est épuisé de cette année qui vient de passer, de ces 15 mois à travailler presque deux fois plus que d'habitude pour un résultat, voilà, 10 fois moindre. Évidemment, on a fait des belles choses, on a fait des choses qu'on n'aurait pas prévues autrement. Bien sûr qu'il y a aussi un côté positif, mais je crois qu'on est globalement, et je parle pas moi, je parle pas le correspondant, je crois tout le monde, on est épuisé littéralement, et je crois qu'on est aussi très impatient de retrouver le public, de retrouver notre métier, de retrouver voilà ce qui fait le sel de notre vie, et je crois qu'aussi de la vie culturelle de la société française et européenne, et donc on est très impatient de savoir comment les théâtres vont réouvrir. Quand les théâtres vont réouvrir. Je crois qu'on est très impatients de décisions rationnelles, lisibles, compréhensibles. Voilà, je pense que c'est ce qui nous a manqué clairement depuis des mois, que tous ces théâtres, ces salles de concert sont fermées. C'est de comprendre pourquoi, parce que rationnellement, je crois qu'on est majoritairement très indulgent devant et conscient du fléau qui s'est abattu sur nous, conscient, solidaire. Je crois qu'on est indulgent face à un gouvernement aussi qui a dû prendre énormément de décisions en un temps record et face à l'ampleur de cette situation. Je crois qu'il est évidemment trop tôt pour faire un bilan de quoi que ce soit, mais je crois qu'il est grand temps de se dire que maintenant on a besoin de décisions rationnelles, lisibles, compréhensibles. Voilà. Je pense que aujourd'hui, on sait que les études ont montré, les expériences en Espagne et ailleurs ont montré qu'un théâtre n'est pas un lieu où on risque autant qu'un supermarché, que le train que j'ai pris ce matin qui était bondé. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment en attente de signes rationnels. Donc je disais dans le journal ce week-end qu'on parle de jauge de réouverture à 35%. Ça me semble du surprécautionnisme. Pourquoi est-ce que le spectacle vivant serait affublé de ce surprécautionnisme quand, par ailleurs, les supermarchés sont ouverts depuis des mois en continu? Donc voilà, on attend ça avec beaucoup d'impatience, et je crois que au-delà du jeu de voilà, qui était assez malheureux d'ailleurs sur les mots d'essentiel, pas essentiel, quelque part maintenant, regardons comment les choses vont se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce que c'est à l'aune de ces décisions-là qu'on se dira, ce gouvernement en France tient à la culture. Or, aujourd'hui, on n'arrive pas exactement à le savoir.
Sébastien Dossé, l'ensemble correspondance aime toujours la musique française, aime toujours
oui.
Marc-Antoine Charpentier. Ça, c'est un disque paru l'an dernier, extrait de ce disque Messe à quatre cœurs. C'est pas le même latin d'ailleurs que vous faites chanter aux interprètes ici et celui du disque Buxtehude-Schütz.
Et non, on se réinvente quand on passe au latin, à l'allemande ou à l'italienne ou à la française. On switch.
Avec de légères inflexions. Il nous reste 2-3 minutes pour évoquer 1000 choses. D'abord, ce MOOC qui se poursuit. C'est quoi un MOOC déjà ?
Un MOOC, c'est un cours en ligne qui est organisé en épisodes successifs par semaine et dont on arrive maintenant à quasiment la dernière semaine. Je crois ce jeudi, ce sera le tout dernier épisode. Et c'est un cours qu'on a monté avec le Festival d'Ambronay, avec le Louvre et avec la Sorbonne. Et on est vraiment super content parce qu'il y a eu un grand succès. Il y a eu 5500 participants et presque autant à la fin, ce qui est assez rare pour un MOOC parce que les gens décrochent généralement assez vite. Et on a encore, voilà, vous avez encore plutôt 10 jours pour vous inscrire et tous les contenus restent accessibles encore pendant une dizaine de jours.
Et avec des gens très bien qui y participent, Sébastien Dossé.
Vous parlez de Saskia Deville.
Je parle de Saskia. MOOC de l'ensemble correspondance, vous allez vous remettre sur selle à vélo après l'été dernier?
Ben malheureusement, là on devait dans 10 jours se repartir pour une seconde tournée à vélo qu'on est en train en ce moment de réorganiser pour le mois de septembre.
Et ces tournées à vélo, elles pourraient se faire d'ailleurs même en jouant en plein air, en s'affranchissant de ces consignes sanitaires qu'on évoquait, ou c'est compliqué ?
Pas vraiment, parce qu'on est déjà on est respectueux de tous les textes qui sont en vigueur, mais surtout voilà, on joue des musiques qui demandent des lieux plutôt que du plein air.
Charpentier, vous le jouerez normalement le mois prochain à Prague, entre autres. Vous jouerez également le 1er juin à Rouen, à la Chapelle Corneille. Et puis, Aix-en-Provence, projetons-nous vers l'été, le festival d'Aix. Combattimento, ce sera au Théâtre du Jeu de Paume. En quelques mots, de quoi va-t-il s'agir ?
Il s'agit déjà d'un grand moment pour nous parce que c'est la première fois qu'on participera au Festival d'Aix, donc on est très très heureux de ça. Et c'est un projet que Pierre Audi nous a proposé de monter avec Sylvia Costa, qui est une jeune metteuse en scène, avec qui on a travaillé autour d'un projet qui part d'une des visions de Monteverdi, qui est le combat de Tancrède et Clorinde. Je pense qu'il est une des deux grandes visions de Monteverdi pour l'avenir de l'opéra avec l'Orfeo, et à partir duquel on a réécrit tout un spectacle, donc en invitant des pièces de la même zone géographique, c'est-à-dire le nord de l'Italie et de la même période, c'est-à-dire de ce milieu du XVIIe siècle, pour construire tout un spectacle qui porte aussi le sous-titre de la théorie du signe noir.
À découvrir en juillet et sur France Musique, Combattimento, le nouveau grand spectacle musical de correspondance qui tournera ensuite des mois, des années, comme ça a été le cas avec le Ballet Royal de la Nuit. On en est certain. On se quitte avec un Suédois, je ne sais même pas comment on prononce son nom, Ludert Dijkman.
Dijkman.
Dijkman, qui est sur ce disque aussi, que vous avez découvert.
Que j'ai découvert en montant ce projet. Simplement, en deux mots, c'est un compositeur qui était actif à la cour de Suède et qui a écrit pour la disparition des enfants royaux une pièce complètement déchirante en suédois et qui a beaucoup de similitudes de style avec l'écriture de Buxtehude, notamment le Klaglied que Buxtehude a écrit pour la disparition de son père. Oh,
Le début de cette musique de Ludert Dekman avec la voix de Julie Roset qui chante donc en suédois l'ensemble Correspondance dirigé par Sébastien Dossé. Magnifique double disque qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. À très bientôt Sébastien Dossé.
À bientôt.
Merci.
À réécouter sur francemusique.fr.